Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca. C'est le tome 38, le chapitre 412 de Mission Encre Noire qui commence. J'ai envie de vous écrire depuis des semaines, car je crois que quelque chose vous échappe. Je n'ai pas choisi d'aimer votre fille. C'est une force plus grande que moi qui m'a amené à elle. Une force qui m'a fait tellement peur du haut de mes 16 ans et que j'ai combattu pendant 8 ans, parce que je croyais que ce serait plus facile ainsi. Pendant des années, je me suis senti vide et triste. Tout me ramenait à votre fille. C'était la seule constance dans ma vie. Alors, un jour, nous avons toutes deux choisi de nous laisser emporter par cet amour, parce qu'on ne pouvait exister autrement. Cette journée-là, j'ai décidé de la rendre heureuse, de prendre soin d'elle. C'est pour cette raison que je vous écris aujourd'hui, pour la protéger de vous, de votre peur. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Trouble nos ombres », un collectif dirigé par Jennifer Bélanger, paru en 2023 aux éditions Triptyque dans la collection Queer. La colère ne se tarit pas, dixit l'autrice. De l'élaboration de ce projet à l'été 2020, son achèvement en 2022, Safia Nolin deviendra la bête noire des réseaux sociaux malgré son récit d'agression subi de la part de Marie-Pierre Morin. La montée de la droite aux États-Unis et celle des conservatismes en général dans le monde, dès lors, menace les droits fondamentaux des personnes minorisées. Les textes réunis ici par Jennifer Bélanger offrent un espace sécuritaire à 11 artistes, non seulement pour témoigner de l'urgence à dire les dangers qui guettent les personnes LGBTQ2IA+, mais également pour nous partager des récits de vie poignants. Qu'il s'agisse d'amitié, de rapports amoureux, de désir, de colère, de résistance, Étienne Bergeron, Julie Bosman, Marie-Lou Craft, Nicolas Dawson, Martine Delvaux, Sandrine Galland, Maude Lafleur, Maëlle Maréchal, Roxane Nadeau, Mélanie Obomsawin et Justina Uribe se réunissent sous l'ombre lumineuse et créatrice de Jennifer Bélanger, qui est mon invitée ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Jennifer.
Bonsoir Eric.
Alors, vous êtes doctorante et écrivaine. Vous avez publié chez Liotrope Menthol, paru en 2020, et Les Allongés, paru en 2022, un essai poétique écrit avec Martine Delvaux. Alors, avec ce recueil de textes, vous créez un espace de libre parole pour les personnes LGBTQ2IA+. En amont de ce collectif, écrivez-vous, il n'y a pas d'identité. Il y en a mille et les voix, toutes uniques et complexes, s'accordent les unes aux autres. Y a-t-il eu un contexte particulier pour proposer cette prise de parole à l'ensemble des autoristes?
Ben, le titre t'a paru un peu comme une évidence. Je tournais toujours autour du trouble, autour des ombres. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas les associer ensemble pour créer plusieurs danses sémantiques entre les mots. Puis vraiment, l'idée originale du recueil est apparue avant la pandémie, c'est-à-dire à partir d'expériences personnelles depuis mon adolescence, quand je chantais dans les bars, les clubs, d'accumuler un peu les confidences qu'on disait de manière très gênée, maladroite. « Ah, j'ai vécu telle agression dans telle relation homosexuelle, comment en parler ?» Il y a toujours une honte qui pesait. Puis quand la pandémie est arrivée avec les règles sanitaires, le confinement, où on réitérait un peu l'idée de la famille normative, nucléaire, si on peut dire. Et c'est là que je voyais qu'il y avait certaines personnes qui vivaient en relation queer où le confinement impactait leur lien parce que, bon, ils se retrouvaient peut-être dans une relation qui littéralement ouvrait les murs des maisons. Il y avait des personnes qui étaient en couple avec plusieurs personnes. Donc, comment négocier le risque à ce moment-là? Donc, c'était toutes des questions qui ont été, disons, relancées par la pandémie. Et là, durant l'été, avec aussi, comme vous l'avez mentionné, les dénonciations dans le milieu culturel. Je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose avec ça. Il faut décortiquer cet angle mort. Il faut trouver un espace entre nous et en nous pour en parler, pour s'entendre, peut-être pour justement nous retirer cette honte, nous enlever cette culpabilité que je sens vraiment présente.
Mais pourquoi vouloir chercher vos ombres, comme le suggère votre titre en introduction ? L'ombre est une image à la fois fragile et diablement résistante.
Oui, exactement. C'est cette polysémie qui m'intéressait. Et l'ombre, telle que j'en envisage, c'est une présence à part entière. C'est une entité qui n'est pas nécessairement dépendante de son référent. Et c'était vraiment pour l'idée de son rapport à la lumière, c'est-à-dire que c'est l'ombre. C'est une figure qui est complexe et je voulais vraiment déplier cette complexité pour dire justement qu'on n'est pas à la fois saisissable, qu'on peut glisser dans les interstices de sens, qu'on peut se permettre de se réinventer justement entre les couches, entre les cases, les cadres et l'ombre justement parce que ça restitue une pensée du mouvement, ça garde vivant ce déplacement.
Mmh. Alors de quelle manière avez-vous présenté votre sujet aux autoristes du collectif? Sur quel aspect avez-vous insisté? Vous écrivez, je cite, « C'est dans l'impur et l'impropre que nous nous ancrons. »
Oui, ben en fait, c'est des voix que je trouvais super pertinentes hors du cadre académique aussi, que ce soit par des présences publiques. Puis je me disais, comment trouver un moyen pour les inviter sans nécessairement aussi creuser un fait biographique qu'elles m'avaient confié, tout en voulant faire entendre que ces personnes avaient peut-être vécu des traumatismes et qui peinaient à se dire encore. Donc moi, je voulais vraiment leur offrir un espace le plus vaste possible, sans contrainte de forme, sans contrainte de temps. Et j'ai vu que les sujets se sont dépliés aussi au fil du temps, du texte, de la relation, des visions qui s'est instaurée entre elle et moi aussi. Donc, je voyais qu'il y avait un lien de confiance qui se bâtissait. Puis, c'était juste important pour moi de leur donner un continuum, c'est-à-dire de la violence à une forme de célébration d'amour qui ne tombe pas non plus dans des clichés, mais vraiment de poser leur vérité avec ce que ça importe justement de choses qui glissent ou de thématiques peut-être difficiles à aborder.
Mais quelle belle gang! Je les ai déjà cités, je me refais ou je redonne un plaisir aux auditrices et aux auditeurs. Vous aurez le grand loisir de rencontrer ou de redécouvrir Étienne Bergeron, Julie Bosman, Marie-Lou Craft, Nicolas Dawson, Martine Delvaux, Sandrine Galland, Maud Lafleur, Maëlle Maréchal, Roxane Nadeau, Mélanie Obomsawin et Justina Uribe. Mais comment avez-vous sélectionné cette belle gang qui vous accompagne?
Ça a été un peu une évidence. C'est des amis pour la plupart, c'est des gens que j'avais lus, relus, même j'avais déjà collaboré avec d'autres personnes. Et je sais que pour un peu les premiers balbutiements, on peut dire, on avait parlé à Maëlle qui m'avait dit oui, vas-y. Ensuite à Nicolas qui m'avait encouragé à exporter ce projet-là, ce truc justement. Puis c'est vraiment au fil du temps que le collectif s'est construit avec leur collaboration, leur présence. Et je les ai rejoints, puis je leur ai demandé vraiment s'ils étaient partants pour s'engager dans ce projet. Et j'ai vraiment réitéré plusieurs fois qu'il n'y avait pas non plus cette contrainte de temps, parce que j'étais consciente qu'on était en pandémie, on est plusieurs à vivre avec des enjeux de santé physique et ou mentale. Donc, c'est important pour moi de garder une présence qui était constante, mais qui n'était pas contraignante. Et je pense que ça a participé à leur engouement, si on veut, pour le projet.
Alors je vous cite, « Nous avons à déjouer les attaques en même temps qu'à éviter d'être avalés par nos propres ombres au sein de nos communautés. » Cette phrase illustre bien vos démarches particulières dans ces textes. Même s'il n'est pas question d'auto-célébration ici, il y a quand même une fierté à partager les expériences multiples et complexes. Ces cicatrices font œuvre de résistance en quelque sorte, comme on en l'a déjà dit tout à l'heure.
Oui, exactement. C'est les marques que nos vécus sont pluriels, à la fois singuliers, mais éclatés, que c'est un vécu qui n'est pas non plus figé dans un cliché ou une idée préconçue. Je pense que l'important avec ce collectif, c'est de dire qu'on ne peut pas s'arrêter à des scénarios figés pour les queers. On veut vivre des choses qui ne sont pas non plus dans l'imaginaire hétéronormatif. Et je pense qu'il faut les nommer pour un peu répéter que ce fandom, ça existe, et commencer à se penser avec un I, avec un E, collectivement, pour aller de l'avant, justement. Pas célébrer ces cicatrices, mais juste dire, regarde, ça existe, je suis passée par là. Ma présence fait en sorte que j'ai encaissé tous ces souvenirs, mon corps porte encore les traces matérielles, concrètes, de ce traumatisme. Et ça, c'est le présent de mon corps aujourd'hui, voilà. Donc, c'est l'idée de se resituer dans une ligne du temps qui est à la fois personnelle, mais historique, sociale, politique.
Alors, il y a un doute qui vous habite rapidement. Et si de parler de la violence des femmes entre elles ne desservait pas la cause et ouvrait une voie royale à la récupération par des homophobes et des masculinistes? Qu'est-ce qui vous a convaincu d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui a levé vos réticences par rapport à ce sujet?
C'est une très bonne question, mais en fait, je crois que l'importance de ce projet, c'est vraiment de revenir à nos voix, à nous, à la vérité que ces voix portent. Et je pense que le fait de nommer est pas équivalent peut-être au backlash qu'on subirait. C'est-à-dire que ce backlash-là, de toute manière, on le vit quotidiennement, que ce soit dans le silence de nos vérités ou dans le fait qu'on les énonce. Donc, je me dis, bon, ça n'a pas le même poids. Je pense qu'il faut aller de l'avant, justement, en déconstruisant l'espèce de corrélation qui se fait. C'est-à-dire que si on dénonce des relations de violence physique ou conjugale qu'on a vécues dans un couple homosexuel, je pense qu'il faut, comme vous l'avez mentionné, expliquer que ça fait juste élargir notre compréhension des violences, comment ça fonctionne, comment c'est insidu, comment on peut récupérer, rejouer à l'intérieur de nos relations des normes qui appartiennent à d'autres types de relations. Donc, je pense que c'est important de les nommer pour guérir. Et je pense qu'on peut pas, parce qu'on a peur peut-être que ça soit récupéré, je pense qu'on peut pas guérir si on a trop peur que ça se retourne contre nous. Donc, ça, c'est le pari. Et l'idée du collectif, c'était aussi l'idée d'être accompagné de d'autres voix pour nous défendre, pour nous sentir en sécurité, qui est un filet de parole autour de nous, pour justement qu'on puisse pas être avalé par des voix qui s'élèveraient contre nous.
Mmh. Je vous cite, « Nous nous libérons ainsi, nous nous réinventons et nous écrivons, nous revenons aux questions qui s'évanouissent devant la violence amoureuse, nous tentons d'avancer et de soigner les fleurs dans les vases fanés. » Y a-t-il quelque chose de l'ordre du thérapeutique de résilience dans l'exercice d'écriture de ce recueil?
C'est une autre bonne question. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu quelque chose de thérapeutique. Je ne l'ai pas ressenti forcément chez les participants. Chez moi non plus, je pense que c'est vraiment juste, on essaie, on se nomme comme tel. Il n'y a pas de sublimation, il n'y a pas... La guérison, en fait, elle se fait peut-être dans l'objet, dans l'ensemble complet, c'est-à-dire dans l'organisation des textes, leur enseignement, dans l'idée justement d'une multitude à travers des expériences qui nous morcellent et qui nous enferment en nous-mêmes. Donc, je pense pas peut-être que l'écriture a contribué à quelque chose, mais je crois qu'il y a eu une sortie de la honte. Il y a eu peut-être pour certaines personnes enfin des mots à placer sur des réalités qui sont encore au présent de leur existence. Donc c'est l'idée vraiment de décortiquer peut-être plus que d'en finir. Parce que ce qu'on apprend aussi, c'est que ces histoires-là finissent par nous suivre, nous rattraper. Donc je crois pas que c'est on écrit pour oublier, mais peut-être juste pour se dire qu'il peut avoir un effet symphonique avec tout l'ensemble des voix. Et ça, c'est peut-être notre de sortie ou justement qui nous permettrait de sortir de soi. En fait.
Mmh. D'ailleurs, Étienne Bergeron écrit « Être gay, c'est grandir avec une conscience de la mascarade sociale à laquelle tout le monde joue. Prendre conscience de la différence, sortir de la stigmatisation au-delà du simple fait d'appliquer des pronoms appropriés là où il faut. Bref, ce recueil est-il un moyen bouleversant de dévoiler les expériences humaines derrière le mot queer, déplier les vécus de chacun, de chacune?
Oui, tout à fait. J'ai l'impression, comme tout concept qu'on remâche, surtout un concept qui est aussi ancré peut-être dans un cadre universel, donc souvent dématérialisé ou juste décorporisé, ben là, j'ai l'impression qu'il fallait revenir au corps que derrière le queer. Les corps qui sont queer, qui incarnent ce concept, c'est pas qu'un concept intellectuel, justement, qui est très charnel, et de faire voir la traversée de ces corps, et justement de sortir de cette mascarade sociale, de sortir des attentes qu'on a envers nous, de sortir de toute cette méfiance. Moi, je sais, une des phrases qu'on me répétait souvent quand j'étais mon coming out, c'était l'idée de « Ah, fais attention, tu vas vivre vraiment quelque chose de mélancolique, de triste, parce que le milieu queer, on sait. » Tu sais, puis je me disais, ben oui, c'est peut-être bienveillant des personnes hétéros de nous dire que c'est un milieu qui est exigeant, mais il n'y a pas que ça. Et même à travers la mise en mots de nos traumatismes, on arrive à pointer la singularité qui fait en sorte qu'il y a une résistance constamment. On est habitué à être en situation de résistance. Donc, même si on joue de cette mascarade pour dans des cadres sociaux, puis éviter peut-être par moment d'attirer l'attention sur nous parce que ça serait compromettant, parce qu'on veut se donner une pause aussi, c'est exigeant. Mais je pense que le fait de le dire et de montrer à quel point qu'on résiste et qu'on lutte en même temps contre cette violence, fait que c'est une double force pour nous. Et je crois que c'était peut-être ce mot célébration vient dans cette reconnaissance de cette double force.
Oui, célébration et faire communauté, parce qu'on retrouve ça évidemment dans le recueil. Il y a plusieurs phrases qui se répondent dans les textes ou qui s'interrogent à distance. Par exemple, c'est de là, le sexe n'est que littérature. Si le sexe était autre chose qu'un poème, il aurait pu me combler. Mais c'est parce qu'il est un poème qu'il ouvre toujours plus grand la plaie qui promet d'apaiser. Ça, c'est d'Étienne Bergeron, un texte que je vous recommande fortement, et qui résonne avec un autre, les deuils amoureux, entre guillemets, ne se font pas jamais. Il n'y a pas d'étapes par lesquelles il faut passer. Le deuil dure tout le temps. Sexe débridé, peine d'amour, à travers la littérature, ce trouble des sens n'est-il pas ce qui permet aux lecteurs et aux lectrices de s'incarner dans le propos ou dans les propos malgré nos différences? Peut-on y trouver justement des points de rencontre?
Oui, exactement. C'est comme vous l'avez nommé, l'idée de faire communauté. Tout d'abord, je crois que le projet part du principe que c'était entre nous, entre le monde des communautés LGBTQA+, de se reconnaître, de se voir. Mais c'est des expériences qui, même si elles sont écrites au jeu, débordent parce qu'elles sont dans un contexte qui est plus large, historique, social. Je pense qu'une personne qui a jamais été en relation avec quelqu'un du même genre, ou non-binaire, ou une personne trans, peut très bien reconnaître, par exemple, dans le texte de Martine Desvaux, une peine d'amour qui fait expérience d'une violence conjugale, mais qui est quand même particulière parce qu'elle est propre à une situation entre deux femmes où on se dit un peu peut-être, pas naïvement, parce que je pense que c'est pas l'idée d'être naïve, mais on se dit, bon, si je suis dans une relation avec une femme, peut-être qu'il n'y aura pas cette violence patriarcale, mais des fois, cette violence elle se rejoue, et là, c'est pour ça que je reviens un peu à cette définition de Foucault, là, qui dit que les violences, le pouvoir est très tentaculaire, c'est-à-dire qu'il est un peu partout, puis les sujets peuvent rejouer des effets de violence, et c'était ça aussi l'idée d'interroger, nous, à l'intérieur de nos communautés, ce qu'on peut reproduire comme violence envers d'autres minorités de race, de classe, de genre.
D'ailleurs, j'avais oublié de préciser que le deuxième extrait est effectivement extrait d'un texte de Martine Delvaux. Toutes ces histoires nous écrivent, nous nomment, dans nos peurs, nos angoisses, nos envies, elles sont uniques, elles nous nomment, nous, les humains, dans ce qu'il y a de plus sensible. Ce qui fait changement, hein, face à l'omniprésence des discours assommants des Trump, Andrew Tate, Poilievre, Legault, etc. Lire Gabriel Cholette, Kevin Lambert, Jean-Paul Daou, comme le fait si bien Étienne Bergeron, il dit... D'ailleurs, pour le citer, il dit « Lire ces auteurs ou ces autrices me permet de mieux érotiser l'ennui ». Y a-t-il une part de provocation, de stimulant dans votre recueil, dans le sens émulation de la pulsion de vie?
Oui, ben, je pense que chacun des textes porte un souffle de vie et ce qui explique en soi aussi l'acte d'écrire. Et je crois que c'était pas non plus... aucun des textes ne se complaise dans une forme de violence. Je pense qu'on fait juste reconnaître le mécanisme insidu de violences et de les nommer. Donc, ce qui fait qu'il n'y a jamais, cette gêne à dire les choses telles quelles. Et je crois qu'il y a peut-être cette pulsion-là qui est plus forte parce que, bon, le texte d'Étienne que vous citez est magnifique. Ça termine quand même sur une violence, mais en même temps, de noyade, mais en même temps, on voit comment le corps du narrateur va utiliser cette noyade pour un flottement, pour dire que peut-être qu'il faut juste se laisser aller à travers les vagues de l'existence. Donc, il y a toujours, je reviens à cette double force, c'est que souvent, quand on va subir une violence, on va savoir tout de suite comment réagir, et ça, c'est une arme qui est puissante, qui a été malheureusement peut-être peaufinée au fil de violences qui ont été vécues justement par nous, mais par d'autres corps dans un continuum. Mais j'ai l'impression que oui, effectivement, je pense qu'il faut reconnaître à la fois l'amour, à la fois la vie dans ces textes qui peuvent sembler peut-être un peu difficiles à lire, à approcher. Mais c'est inscrit en filigrane partout que cette idée de qu'on se voit, qu'on existe toujours.
Donner la parole, ouvrir la voie, ouvrir les voix. On parle manipulation dans des relations amoureuses nocives ou la pression du jugement familial, comme dans ce magnifique texte de Julie Bosman, Être à Marie. Il faut bien le rappeler, avant de se construire à deux ou à plusieurs, il faut affronter ce qui empêche la culture queer, la société, les institutions hétéropatriarcales. Votre recueil rappelle comment il est difficile de partager et de transmettre ce qui touche le plus intime et aussi le plus privé.
Oui, tout à fait. C'est que je sens qu'il y a, il y a encore des obstacles, effectivement, surtout en ce moment, où qu'on voit, par exemple, les drag queens qui peuvent plus faire la lecture aux jeunes sous prétexte d'endoctrinement ou ce truc comme ça assez fou. Et je me dis, mais est-ce que notre parole va pas sans cesse être retournée contre nous, va être légiférée? La notion de surveillance ici qui est utilisée depuis les tout débuts contre ces corps qui sortent de la norme. Et je me dis, mais comment parler dans ce contexte où les bouches sont cimentées par par une peur d'être attaquée constamment? Et ça, c'est un miroir qu'on peut retourner contre nous, qu'on pense à nombre de corps queer que j'ai connus qui étaient dans des dépendances à l'alcool, à la drogue pour s'en désir, sortir de soi. Ça devient aussi un peu une norme sociale dans les communautés. J'ai l'impression aussi qu'énormément, le taux de suicide est énormément élevé chez les personnes trans, les personnes non-binaires. Ça, c'est des réalités qui existent encore. Et il faut les nommer plutôt pour être capable de pour être capable d'aller plus loin et dire oui, nos existences, c'est ça, c'est nos réels, mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'on a tendance encore à replier en une seule dimension nos existences, et le recueil participe à éclater cette pensée qui est erronée, en fait.
En refermant le recueil, je me suis souvenu d'une entrevue que j'avais lue de Kevin Lambert où il parle d'expériences minoritaires dans ses lectures. Peut-être que votre recueil va permettre aussi à votre lectorat de se découvrir une proximité nouvelle avec certains récits.
Oui, c'est tout à fait le cadre qu'on voulait créer ensemble. L'idée d'atterrir dans les bonnes mains ou de juste que quelqu'un qui vit peut-être une situation de violence conjugale à l'intérieur de son couple ou qui traverse une rupture qui est difficile ou qui parvient pas à dire à ses proches, par exemple, à faire son coming out. J'ai l'impression que ce livre-là peut-être pas nécessairement offrir des réponses, mais juste dire, t'es pas seul. Et il y a une communauté, il y a des gens autour qui vivent des choses difficiles et qui sont toujours là en train d'écrire, en train de se battre, en train de juste vivre et aimer. Et ça, c'est peut-être l'acte de foi envers ce recueil, c'est de dire, il est toujours possible d'aimer, il faut toujours choisir l'amour malgré tout.
Voilà. Ouais, et puis il est possible aussi de rire, de partager, parce qu'il y a effectivement de tout dans ce recueil. L'approche non-genrée, fluide, imprécise, queer, permet aussi de modifier sa lecture du monde. Maëlle Maréchal donne sa définition, par exemple, de Butch. Beautiful, mm-hmm. The urge to change humanity. D'ailleurs, son personnage qu'elle incarne, enfin, un personnage qu'elle incarne dans son récit, six des jouets pour adultes, des dildos, tchac, 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 comme elle l'écrit, qui finit, d'ailleurs, ce texte finit par cette phrase, elle coupe et puis elle dit, les devenirs sont ouverts aujourd'hui et demain. Tchac, effectivement, c'est très drôle. Elle écrit l'écriture déboule, l'écriture parle, l'écriture hurle, chante et danse. On ne mesure pas assez ce que le mot queer a de désir contestataire, révolutionnaire. Aujourd'hui, autant dans les années 80, le No Future des punks dominait, autant aujourd'hui, on pourrait peut-être se demander si Future is queer, indifférencié. Mais le trouble dans le genre, il y a au-delà de la résistance dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi toute une notion de fierté dans ce recueil.
Oui, la fierté peut-être de juste, encore je reviens à cette idée de présence, la fierté de dire j'existe toujours et encore et à jamais. Comme si vous dites que ce futur est queer, j'ai l'impression qu'on participe peut-être à établir une archive ou du moins à paver une route, c'est très humble comme truc, mais je veux dire, quand Maëlle dit justement que les devenirs sont ouverts, c'est la possibilité de couper, que ce soit vraiment l'acte au sein de nos généalogies, au sein de ces liens qui ne conviennent pas à nos espoirs queer aussi, et de dire on va pouvoir continuer à avancer malgré tout. Mm-hmm. Je pense que le geste de rester dans ce désir d'une ouverture, d'un désir de devenir, donc d'être dans la mouvance, encore une fois, de dire aujourd'hui, si je me définis de telle manière, j'ai la possibilité de toujours être de plus en plus près de ma vérité, de comment je me sens. Et ça, c'est une liberté immense. Et c'est peut-être ça aussi qui fait peur à la droite, c'est de dire que les corps queer incarnent ce changement à même leur existence. Et ça peut créer des révolutions qui sont extrêmement fortes d'un point de vue sémantique, mais aussi politique.
Ouais, il y a une liberté d'écrire, une liberté de dire qui est formidable dans ce recueil. Nicolas Dawson nous promène dans ses nuits berlinoises, des nuits qui ne sont pas hétérosexuelles ou cisgenres. Ce qui est riche dans votre recueil, la parole est nuancée selon les expériences multiples. Elles ont tout un point commun. Elles n'appartiennent pas à l'ordre dominant straight. De ce fait, votre recueil n'empêche pas que elle relate des récits d'accompagnement, de sentiments d'inadéquation et de solitude néanmoins.
Oui, tout à fait. Et c'est important ce que vous dites parce qu'effectivement, j'ai pas voulu non plus imposer le mot queer à certaines personnes qui peut-être ne s'identifient pas ou ne se retrouvent pas sous ce mot. Et c'est important pour moi d'investir justement la nuance et les possibles malgré tout. Donc, c'était mieux d'identifier que c'était des voix qui s'opposaient à un système hétéropatriarcal plutôt que de l'inverse, mais tout en reconnaissant qu'il y a des voix qui assument haut et fort qu'elles sont queer. C'est cette cohabitation-là des singularités qui crée une pluralité et qui dit, encore une fois, que notre réalité à l'intérieur des communautés, elle n'est pas homogène. Mm-hmm. Et ça, c'était ultra important vraiment de le mentionner. D'où l'idée aussi qu'il ne faut pas creuser plus loin que les mots qui sont dans les textes. Il ne faut pas chercher... Il faut peut-être travailler notre réflexe de lecteur-lectrice et se délaisser de notre don d'attente aussi. Je pense que c'est des textes qui nous amènent dans des trajectoires innovantes, inédites, et il faut juste se laisser porter.
Mmh. Roxane Nadeau a ces mots, je la cite, « Nous, les personnes trans, avons un rapport très instrumentalisant à notre mort collective. Nous voulons la brandir telle une arme rhétorique, sans assister aux funérailles des nôtres. Nous nous barricadons derrière les portes du savoir avec les corps indéterminés de nos sœurs mortes. » Ce recueil est également aussi un rappel qu'il y a urgence à défendre les droits des personnes trans, de prendre position, car l'avenir conservateur s'annonce plutôt sombre.
Tout à fait. Je pense qu'il faut cesser de débattre lorsqu'il s'agit d'existence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être pour ou contre les personnes trans. C'est absurde, c'est violent. Il faut prendre connaissance, justement, que ces personnes existent à part entière, qu'elles ont des droits, et reconnaître aussi qu'à l'intérieur des communautés, il y a des angles morts, des personnes trans qui sont blanches, par exemple, versus des personnes trans qui seraient racisées. Ils n'ont pas le même vécu. Donc, c'est reconnaître aussi cette différence. Il faut faire vraiment attention pour, encore une fois, ne pas plaquer un vécu qui serait homogène sur la population des personnes trans. Et effectivement, il faut cesser de débattre et être, encore une fois, dans l'amour de l'autre, sans prêcher un truc qui serait catholique ou religieux, mais juste vraiment de porter cette attention à l'autre, de s'intéresser à ce que ces vécus peuvent apporter de mieux dans le monde.
Pour finir, sans être fleur bleue, je laisse le dernier mot à l'amour. L'amour soigne tout, comme le souligne Julie Bosman, je la cite. « Je suis à Marie, les choses n'ont plus besoin d'avoir un sens, ne plus être enfermées dans une vision hétéronormative de la vie. Nous avons besoin de donner et de recevoir plus d'amour », comme le soulignait d'ailleurs Martine Delvaux à cette antenne il y a quelques temps. C'est ça aussi être militante, non ?
Oui, exactement. Je crois que le militantisme vient de cet amour, de cette prise de conscience que ce qui nous meut les uns vers les autres, ce qui nous déplace, c'est un élan d'amour. Et ce livre, ben oui, il se fait sous le signe de ce désir de vivre, d'exister et de se nommer et d'aimer.
Voilà, Jennifer Bélanger aménage un espace sécuritaire et passionnant pour accueillir les paroles des personnes LGBTQ2IA+, une collection de textes remarquables pour valoriser ces expériences de vie plurielles, singulières, complexes. Trouble nos ombres, un collectif dirigé par Jennifer Bélanger, paru en 2023 aux éditions Triptyque dans la collection Queer. Merci infiniment, Jennifer, d'être passée à Mission Encre Noire.
Cette fois, ça semble bien parti. Le soleil s'est couché, mais la pâleur du paysage permet d'y voir plutôt clair. Face à Jacqueline, la rivière, Celle-ci est gelée de bord en bord. Les chevreuils utilisent cette voie dégagée pour leur déplacement. Une femelle et ses deux petits s'y promènent souvent, parfois rejoints par un autre groupe. Les fans jouent, cabriolent et se poursuivent pendant que les mères surveillent les alentours. Jacqueline ne se lasse pas de ce spectacle, comme s'ils venaient exécuter leur ballet juste pour elle et pour Madeleine, qui doit en profiter tout autant. Cerise sur le gâteau, nous sommes jeudi. Ça a permis à Jacqueline d'emprunter lundi sans se faire voir le treuil électrique dans la cabane d'Albin qui repartit dimanche après-midi comme d'habitude. Il le cache simplement sous une bâche dans son appentis. Elle a rechargé l'appareil sans ôter ses gants, puis l'a installé dans la luge avec la corde et la carabine au cas où. Elle a mûrement réfléchi avant de trancher. Oui, elle en aurait besoin. C'est pour la partie de son plan, encore mal écrite. Ceci est un extrait de La Sainte Paix par André Marois, paru en 2023 aux éditions Héliotrope. Jacqueline a 74 ans. Elle a mal partout et c'est bien normal à son âge. Tandis que Tylenol et Advil se disputent le rôle du meilleur ami, elle observe une fois encore sa voisine, Madeleine, aux jumelles. Les deux femmes se contentent de salutations polies depuis le décès de leur mari. Rien de bien particulier les a maintenues éloignées, cela dit. Chacune profite de son petit coin de paradis de part et d'autre de la mastigouche. À ceci près que le jour où Madeleine franchit le Rubicon pour annoncer son intention de vendre sa maison, la donne change de main. Il s'agit d'une véritable déclaration de guerre. Qui va donc déranger le climat si paisible de l'endroit ? Une famille de citadins avec parasol, barbecue, haut-parleur, badminton, spa, motocross et je ne sais quoi encore pourrait débarquer subitement comme un chien dans un jeu de quilles. Il n'en est pas question, jamais c'est juré craché, estime Jacqueline, quitte à passer sur le corps des autres. À la manière d'un polar de type constricteur, la Sainte Paix bâtit avec élégance une intrigue qui peu à peu s'enroule autour du cou de son lecteur, de sa lectrice pour ne jamais le ou la lâcher. Un brin pervers, après tout, qui peut bien penser que le meurtre fasse partie des activités de villégiature de nos aînés ? Quelques éclats de rire, des titres de chapitres hilarants, voici une bonne occasion de faire diversion avec vos activités quotidiennes harassantes. Je reçois ce soir, à Mission Encre Noire, André Marois. Bonsoir André.
Bonsoir.
Alors vous êtes né en France, vous habitez à Montréal depuis 1992, vous êtes l'auteur de nombreux romans noirs pour jeunes et adultes, dont Bienvenue à Meurtreville, qui est paru aux éditions Héliotrope en 2016, et Irrécupérable, paru chez Héliotrope également en 2021, ainsi qu'un roman Je ne suis pas fou, paru en 2019. Alors le sergent détective Steve Mazink du poste de police de Saint-Gabriel enquête, une fois de plus, je dirais, c'est le troisième volet de ses aventures, si je me trompe, après Bienvenue à Meurtreville et Irrécupérable. C'est un rendez-vous qui est pris avec les lectrices et les lecteurs. Comment vous est venue l'idée de poursuivre avec ce personnage ?
Ben en fait, c'était pas prévu. J'avais écrit Bienvenue à Meurtreville et puis je pensais que c'était un one shot, comme on dit. Et puis finalement, j'ai vraiment eu des feedbacks. Les gens aimaient bien Steve Mazink. Et puis donc ça m'a donné envie d'écrire une suite. Et donc dans le deuxième, dans Irrécupérable, je voulais vraiment donner le premier rôle, rôle qu'il n'avait pas dans Bienvenue à Meurtreville, où il a plutôt un rôle secondaire, il intervient pour faire une enquête, mais c'est pas lui le personnage principal. Donc dans Irrécupérable, je lui avais donné le personnage principal. Et puis ben voilà, j'ai eu une idée pour un troisième livre, et puis donc je l'ai fait revenir, et puis je lui ai redonné un rôle secondaire cette fois-ci. Voilà.
Alors, quel est son caractère, ce Steve Mazink ? Est-ce un flic sans cœur, un justicier d'acier, un placide habile ? Quel est son profil ?
Son profil, c'est un flic plein de bonne volonté, plutôt expérimenté, plutôt habile, mais malchanceux. Voilà, c'est un loser dans son travail, on va dire. C'est-à-dire que Malheureusement pour lui, il a tendance à ne pas pouvoir conclure ses enquêtes. Il arrive un petit peu trop tard. Généralement, les gens sont morts ou les coupables se sont enfuis ou ils les découvrent pas. Et donc, voilà. Donc, je trouve que ça, je l'aime bien pour ça. Je trouve que ça le rend très humain. Il est efficace. Il agit avec méthode. Mais malheureusement, il y a toujours un petit décalage dans ses enquêtes qui fait que, voilà, le lecteur en sait toujours beaucoup plus que lui.
J'ai envie de vous demander, est-ce que le choix d'un héros compte beaucoup pour ancrer une série, pour accrocher votre lectorat ? Par exemple, on dira, je vais lire André Marois, car Mazinck est loin d'être, par exemple, sanguinaire. On est loin de l'inspecteur Harry, par exemple. Je me souviens d'ailleurs oui. d'une entrevue que j'avais faite avec R.G. Ellery au Festival de Knowlton. Il disait être fier d'écrire des polars sans gun, sans tirer un coup de feu. Si vous aviez définir votre héros, ça donnerait quoi ça ? Ce qui revient finalement à définir votre style de polar. C'est quoi le style de polar d'André Marois ?
Le style de polar, c'est du roman noir. C'est du roman très humain. Je m'intéresse à des gens ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. Et puis donc, je passe les gens dans une situation où tout d'un coup, ils vont commettre un crime, un meurtre, quelque chose. C'est un roman noir où il y a de l'humour. Pour moi, c'est important parce que l'humour fait partie de la vie. Puis je trouve que ça fait du bien d'avoir un peu de décalage quand on tue tout le monde. Et puis, donc voilà, c'est important pour moi. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, quand j'écris une histoire, c'est le mobile du crime. En fait, c'est vraiment mon moteur d'écriture, c'est de découvrir, trouver un élément déclencheur. Pourquoi quelqu'un décide de commettre un crime, pourquoi généralement, oui c'est ça, un crime, un meurtre, dans le cas de la Sainte-Paix, pourquoi une voisine veut tuer l'autre voisine alors que a priori elle n'est pas du tout méchante ni violente ni rien. Et donc c'est ce mobile, qu'est-ce qui va la mobiliser, et puis donc comment la rendre sympathique, comment rendre sympathique un meurtrier, parce que comment on peut s'attacher à son mobile en se disant, moi, lecteur, lectrice, à sa place, moi, peut-être que je ferais la même chose. Je comprends ce qu'elle fait. Elle agit pour une bonne cause ou pour quelque chose qui me semble légitime. Donc, quelque part, c'est pas bien ce qu'elle fait, mais elle le fait pour la bonne cause. Ouais, c'est ça. Dans Bienvenue à Meurtreville, le personnage principal devient tueur en série pour sauver son village. Donc, c'est bien ce qu'il fait, même s'il tue le monde. Dans le cas de la Sainte-Paix, Jacqueline va décider de tuer Madeleine d'une certaine façon, mais parce que on la comprend à sa place, probablement qu'on ferait la même chose.
Alors la collection Héliotrope Noir est consacrée au polar et se propose de dérouler un portrait inédit du territoire québécois dans laquelle le crime fait figure de passe-droit. Pour vous, direction Mandeville et Lanaudière dans le nord-est, à 1h30 de Montréal, au large de Joliette. Pourquoi avoir choisi cette région où coule paisiblement la Mastigouche ?
Parce que tout simplement, nous avons un chalet à cet endroit-là, au bord de la Mastigouche. Je suis actuellement dans la maison de Madeleine. Voilà, je vous parle de la maison de Madeleine.
pour trouver la Sainte la Sainte-Paix, c'est ça ?
Voilà. Et un peu en biais de chez nous, il y a un chalet un petit peu plus qui nous domine un petit peu. Et donc j'ai imaginé toute l'histoire comme si j'habitais dans la maison d'en face. Voilà.
Alors justement, la Sainte-Paix, c'est une expression qui date du XVIIIe siècle, qui désigne le fait d'être serein, tranquille, donc près de la Mastigouche, oui. De n'être perturbé par rien ni personne. C'est un peu ce que l'on vient chercher dans le bois, mais qu'est-ce qui vous a poussé à brasser la cage de cette Sainte-Paix ici ? D'où vous est venue l'idée de cette histoire ?
Mais en fait, je pense que c'est né pendant la pandémie, parce que on habite vraiment dans un coin qui est vraiment très très tranquille. Il y a un chemin qui passe là, et puis il y a pas grand monde qui y passe. Et puis pendant la pandémie, plus personne n'est parti en vacances, et il y a eu beaucoup de monde qui tout d'un coup est venu, qui a loué des chalets. Les gens venaient. Il y a des cascades à côté absolument superbes, donc les gens venaient visiter. Puis tout d'un coup, on a eu un été absolument différent des autres. Et on s'est dit waouh, c'est pas ça qu'on c'est pas ça qu'on avait qu'on avait acheté, on va dire. Et donc l'idée est venue de là. Après c'est tout le questionnement, c'est comme la rivière ne m'appartient pas, qui suis-je pour pouvoir réclamer d'être tout seul à en profiter et puis de pas avoir de voisins. Donc l'idée est partie de là, c'est différent, c'était plus calme avant, et voilà, et puis j'ai imaginé cette histoire à partir de ça, de cette postule-là.
Alors, la Sainte Paix, c'est celle de Jacqueline, vous nous en parlerez peut-être plus longtemps, ou plus longuement, sans doute, un petit peu plus tard, mais c'est aussi la tranquillité de Steve Mazin qui est dérangée également. Vous décrivez un héros qui veut changer de vie, en quelque sorte, et qui se retrouve coincé dans un univers clos. Est-ce que le territoire québécois, vu que c'est l'approche d'Héliotrope, devient un univers, ou en tout cas celui que vous décrivez, est un univers replié sur lui-même, malgré les grands espaces, selon votre expérience d'écrivain sur ce roman?
Moi, je décris ce que je connais. En tous les cas, j'ai découvert Mandeville depuis une dizaine d'années. Et puis, c'est sûr que c'est extrêmement intéressant. Les livres que j'avais écrits avant se passaient beaucoup à Montréal, parce que j'habite Montréal. Et découvrir un autre territoire, c'est un territoire ici... Mandeville, c'est très grand. Le territoire est grand comme la ville de Paris, je pense. Mais en fait, c'est un territoire de forêt. Il y a un village qui est important, mais qui est pas immense. Mais par contre, il y a beaucoup de chemins et beaucoup d'habitations qui sont extrêmement isolées. Donc c'est vraiment en discutant avec les gens, avec des voisins, etc. On découvre que les gens sont très attachés à ce territoire, ils sont très attachés à cette tranquillité. Et donc je dirais pas qu'ils sont farouches, mais qu'ils sont, en tous les cas, ils aiment bien, ils sont chez eux. Et c'est passionnant pour un romancier de découvrir justement un monde, une façon de vivre, une façon de fonctionner. Et puis donc j'avais envie de ça m'a nourri beaucoup. Et puis je me promène beaucoup, je découvre. Les médias sociaux sont aussi formidables. Il y a plusieurs groupes de gens qui discutent dans le village. Puis des fois il y a des morceaux de dialogue que j'ai carrément piqué sur des forums, parce que c'est merveilleux, quoi.
Il y a deux citations qui ouvrent votre livre, une de Pierre Bourdieu, puis une autre de Stéphane Escher, Philippe Djian, à travers la chanson « Déjeuner en paix ». Philippe Djian, que j'ai reçu ici en entrevue, déclarait « Le travail de l'écrivain est de rendre ce monde plausible et compréhensible, c'est ça la fiction ». Il se rappelait un souvenir de lecture de Stevenson où il disait « Un rayon de soleil vient frapper le bouton de manchette d'un personnage, ça n'existe pas dans la réalité, dit-il ». C'est le travail de la fiction, c'est le style de l'écrivain qui permet, ou qui vous permet, de choisir un élément qui est plus que la réalité, qui va vous donner exactement l'image que vous cherchiez. Est-ce que cela vous parle? Y a-t-il un élément clé, par exemple, chez Steve Mazin qui nous révèle, ou peut-être même chez Jacqueline, qui nous révèle son caractère?
Ce que j'aime bien dans cette citation de Philippe Djian, c'est l'idée de plausibilité. C'est très important. C'est-à-dire qu'on part d'un élément, puis on se dit, OK, est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce que je raconte pourrait arriver? Alors, c'est sûr que dans la Sainte Paix, je pousse le bouchon le plus loin possible, mais quelque part, c'est plausible. Ça pourrait arriver. Et puis, bon, j'ai entendu des histoires. Après, quand ce genre d'histoire est publié, après, les gens nous racontent, et puis, juste moi, en réfléchissant à ça, j'ai eu des. Il y avait un ami qui me racontait qui est coiffeur, et il racontait qu'il avait une cliente qui avait sabré le champagne quand elle a appris que son voisin venait de mourir parce que il faisait trop de bruit. Et mais c'est dans le même esprit que mon livre, quoi. Donc dans la vie, oui, ça peut arriver. Donc toute cette idée que les choses puissent être plausibles, c'est ça qu'il faut travailler le plus loin possible. Et c'est sûr que plus c'est tordu et plus c'est exagéré, et plus ça me plaît.
Alors, ouais. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure, s'il y a un trait qui revient dans vos livres, c'est le sens de l'humour, la dérision presque. Ici, c'est le titre des chapitres qui divise le livre, qui est hilarant parfois, j'en cite quelques-uns. « Et au milieu coule une rivière, autant en emporte le vent, petit meurtre entre amis IES, ça plane pour toi, la reine des neiges, etc. etc. » Il y en a comme ça pas mal, il y en a une dizaine, une quinzaine, ouais. C'est assez drôle. Pourquoi ces choix ? Est-ce une façon de prendre du recul par rapport aux faits ou par rapport à ce que vous écrivez ?
En fait, des fois, je mets juste des numéros et puis je pense que c'est quelque chose que j'avais lu il y a quelques années. C'était François Barcelos qui disait ça. Il dit pourquoi mettre juste des numéros à vos chapitres ? Donnez un titre à votre chapitre tant qu'à faire, puisque c'est l'occasion de dire quelque chose. Et puis on sait qu'il a beaucoup d'humour et puis il le faisait avec humour, donc je lui ai un peu pas piqué l'idée, mais je me suis dit ben oui, il a raison, allons-y. Donc j'ai commencé et puis j'avoue que mon éditrice m'a encouragé. Elle m'a dit waouh, au début j'avais mis un numéro puis un titre, elle m'a dit non, enlève les numéros, on n'a pas besoin. J'avais mis des références aux saisons, elle dit enlève tout ça, garde juste tes titres, ils sont vraiment bien. Et donc ça s'est fait comme ça.
Assez étonnant que vous citiez François Barcelos, parce que en fait, en lisant La Sainte Pêche, j'ai pensé à François Barcelos, l'auteur de L'ennui est une femme à barbe. Ainsi, un petit peu des ambiances à la Chabrol parfois. On sent que vous prenez un sacrément grand plaisir à fouiller les contradictions et les travers de vos contemporains et de contemporaines. Est-ce que vous aimez particulièrement observer ces détails un peu croches du quotidien pour vous inspirer ? Qu'est-ce qui vous révèle ?
Je pense que les écrivains font ça en général, mais c'est sûr que moi, je passe mon temps à écouter, à noter, à prendre à me gaver de ce qui m'entoure et de ce que j'entends. Mais c'est après les médias sociaux aussi, c'est une mine inépuisable de références, de situations, de dialogues. On se gorge de ça, c'est génial. Après, il faut faire le tri et puis retranscrire, mais le quotidien et l'humanité qui nous entoure, c'est vraiment une source inépuisable de fiction et de situation.
Alors, qu'est-ce qu'il se passe entre Jacqueline et Madeleine, justement, pour que Jacqueline décide d'estourbir sa voisine ? Pourquoi choisit-elle cette option ? Finalement, vous allez nous en dire plus, mais il y a comme un petit point de détail juridique, finalement, qui l'oblige.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Madeleine va apprendre à Jacqueline qu'elle est malade, elle a un Parkinson qui se développe, et donc elle peut plus garder sa maison. Elle veut passer un dernier hiver dans sa maison, et au printemps, elle va vendre la maison. Et donc quand Jacqueline apprend ça, c'est une catastrophe parce que justement, ça fait 30 ans que les deux habitent une en face de l'autre, que c'est tranquille, c'est la sainte paix, et elle se dit là, je vais perdre cette sainte paix, et donc elle commence à aussitôt, elle réagit et puis elle se dit mais comment faire pour éviter que cette maison soit vendue ? Parce que si cette maison est vendue, à qui va-t-elle être vendue ? À des gens qui vont venir faire la fête, à des gens, à des Airbnb, à des à toutes sortes de situations qui vont venir l'importuner. Et donc elle se creuse, elle dit qu'est-ce que je pourrais faire pour que la vente n'ait pas lieu ? Alors première réaction, je ne vais pas tout dévoiler, mais donc la première réaction, c'est elle dit je vais incendier la maison avec Madeleine à l'intérieur. Puis après, elle se dit ça ne sert à rien si la maison brûle, puis elle est morte dedans. C'est pas une bonne solution. Elle dit, donc elle dit je pourrais la noyer, mais elle dit non, c'est pas une bonne solution. Bon, bref, elle cherche toutes les façons de faire pour que, non pas seulement, son but, c'est pas de tuer Madeleine, son but, c'est d'empêcher que la maison soit revendue à d'autres personnes. Et donc elle va trouver une façon, parce qu'elle va se rappeler un code de code des vendeurs pour en cas de vente de maison. Et donc elle va se dire si j'exploite ce numéro d'article, je vais peut-être pouvoir en effet empêcher la vente de la maison. Puis moi, elle veut juste gagner quelques années. Elle sait qu'elle est vieille, elle est malade, elle est fatiguée. Elle dit moi je veux juste gagner 3, 4, 5 ans jusqu'à ma mort, puis après peu importe. Quoi. Voilà.
Ça n'est jamais facile pour un meurtrier de choisir l'arme du crime, mais d'autant plus pour un auteur. Comment choisir l'arme du crime ? Même si dans cette histoire, Albin, l'aide de camp, en quelque sorte, de Madeleine, va lui fournir, en tout cas à Jacqueline, quelques idées. Nous ne sommes pas dans le jeu de société Clou ou Cluedo, selon l'Amérique du Nord ou l'Europe. Il n'y aura pas de meurtrier au chandelier, quoique. Comment procédez-vous pour ces détails technique tout en restant crédible, parce que cette vraisemblance est en quelque sorte votre épée de Damoclès pour ce genre d'enquête.
Ben, comment je procède, c'est que je me mets d'abord, j'essaye vraiment de me mettre dans la peau d'une dame de 74 ans, 75 ans, qui a mal au dos, qui est vieille, qui est fatiguée, mais qui est quand même capable de marcher, qui est encore de conduire, etc. Et puis qui vit à la campagne. Donc à la campagne, ben on vit dans le bois, on a des outils dans le bois, on a accès à tout un tas d'engins, et donc tout d'un coup, elle va découvrir un outil. Qui est comme qui est tout à fait plausible, qu'elle découvre que Albin va utiliser cet outil. Elle dit ok, si j'utilise ça, moi je peux devenir la meurtrière que je pourrais pas devenir dans d'autres cas. Donc j'essaye le plus possible de me mettre dans la peau des personnages, et puis ensuite je demande conseil aux gens qui m'entourent. En l'occurrence, j'ai demandé conseil à un ami qui s'appelle Alex et qui est plein de ressources et qui habite pas loin de chez moi et qui m'a dit bah oui, en effet, ça là, ça pourrait fonctionner. Voilà.
Mais Jacqueline, malgré tout, reste une meurtrière. Qu'est-ce qui concourt à rendre Jacqueline, malgré tout, fréquentable pour le lecteur, la lectrice? Car elle prend, par exemple, du CBD acheté à la SQDC. Donc, vous rejoignez l'actualité avec le cannabis pour se calmer. Le troisième âge n'est plus celui qu'il était. On joue forcément avec les stéréotypes quand on se glisse dans la peau de personnage, j'imagine. Ça vous amuse, justement, de changer ces paradigmes?
Oui, mais ça m'amuse de les changer, mais en même temps, c'est la réalité. Je veux dire, moi, je l'ai fait, je suis allé à la SQDC, je me suis mis dans la file, et puis je suis allé vivre l'expérience. Puis tout d'un coup, c'est vrai qu'on se dit, qui est-ce qui en achète? Qui c'est qui fait ça? Puis bon, ben, y a des gens de tous les âges, puis de tous les sexes, et puis c'est la réalité. Alors je me suis dit, on est au Québec, on est au Canada, le cannabis est légal. Alors, oui, bien sûr. Puis quelqu'un qui a mal au dos, pourquoi il n'aurait pas le droit, au contraire, de consommer du CBD? Donc, c'était pas prévu. Mais quand on creuse, plus on creuse, plus on essaie de trouver une logique, plus les choses s'enrichissent. Et puis ça devient formidable de créer notre personnage. Donc Jacqueline, oui, je l'aime beaucoup, Jacqueline.
Mais vous devez aussi aimer beaucoup Albin, qui est presque un garde-chasse, un ancien boucher, braconnier à 16 heures. Un tel personnage, c'est du bonbon pour un auteur, d'autant plus un auteur de polar. Cela vous permet de garder une carte dans votre manche, dans votre dispositif narratif. Qu'est-ce qui compte le plus pour garder un équilibre de vraisemblance? Parce que vous prenez tous les risques avec des situations qui sont poussé à l'extrême, quasi impossible parfois. Écrire un polar, c'est un peu comme marcher sur un fil?
Oui, oui, c'est comme marcher sur un fil, mais c'est marcher sur un fil avec, en se permettant de sprinter de temps en temps, et puis de tomber, puis de remonter dessus, et puis de couper le fil. On a le droit de faire presque tout, tant qu'on reste plausible, quoi. Je pense que c'est un contrat tacite avec les lecteurs, les lectrices, c'est de dire je vais vous embarquer dans une histoire. Bon, ok, je tire l'élastique pas mal, mais faites-moi confiance, on va y arriver ensemble. Donc c'est ça. Je pense que si les gens ont envie, on n'est pas obligé d'être toujours sérieux, on n'est pas obligé toujours d'être vrai, mais pourquoi pas allons-y ensemble.
Alors, il faut effectivement attacher un souci particulier aux détails, puisque dans ce roman, les personnages vivent en région. Donc, pour les détails, on voit par exemple la présence de serres de Virginie, de bilots de bois, le nécessaire pour troncer, les balades sur le chemin du parc, présence du treuil électrique sans fil, la rivière est forcément gelée. Il y a aussi le magasin communautaire au village où se vendent des truites empaillées montées sur des cadres hexagonales dorés. Les conditions de routières en hiver sont terribles. D'ailleurs le temps joue un rôle très particulier dans votre roman. C'était pas un personnage, mais ça joue un rôle fondamental.
Oui, parce que dans les deux premiers romans, on n'était pas en hiver. Je me suis dit, ça serait vraiment chouette, parce que l'hiver ici est tellement magnifique, la rivière qui gèle et tout. on vit quand même dans un, l'électricité est coupée régulièrement, donc on est, c'est quand même une façon de fonctionner très, très particulière. Et donc j'avais vraiment envie de l'exploiter, ça. Et donc le roman est 4 saisons et bon, la partie hivernale est très importante parce que c'est là que va se jouer le crime, on va dire, sans vouloir tout révéler. Et donc c'était c'était important de jouer avec ça. Puis c'est il y a une histoire à un moment d'attaque de grand-duc. Je l'ai pas inventé. J'ai 2 voisins qui se sont fait attaquer par des grands-ducs en pleine nuit. Et quand ils m'ont les deux raconté une histoire vraiment similaire, c'est comme waouh, c'est incroyable. Faut que je mette ça dans mon lit parce que on peut pas inventer ça, quoi. C'est formidable. Puis c'est, du coup, ça tombait pile poil dans l'ultime péripétie à rajouter dans un certain chapitre.
Alors, Jacqueline se révèle une chargée de projet en crime de qualité. Elle prévoit tout, jusque des auto-interrogatoires. C'est un dispositif narratif drôle et subtil, car vous proposez finalement au lecteur, à la lectrice, de se mettre à la place de Jacqueline en se demandant fait-elle fausse route ? Et pour mieux brouiller les pistes, c'est elle qui donne une première description imaginaire de Mazinck dans le livre. Elle le décrit dans la cinquantaine, ventru, obtus, sentant le tabac et la bière chaude. À vous de découvrir si elle a raison. En tout cas, elle tente de répondre à une question. C'est quoi ne pas avoir l'air d'une criminelle ? Finalement, je me suis dit, pour un auteur comme vous, c'était tout aussi difficile de la rendre crédible dans son besoin de ne pas être criminelle que de trouver les motifs pour l'être.
Oui, c'est ça, mais c'était, quand j'ai trouvé cette idée, ça m'a vraiment amusé. Je me suis dit, comment se préparer à un interrogatoire? On comprend qu'elle est comme tout le monde, elle regarde des séries télé, puis elle a compris comment ça fonctionnait, c'est quoi une enquête, c'est quoi un alibi, c'est quoi, etc. Et donc, elle organise des auto-interrogatoires, et donc elle essaye d'imaginer les questions qu'on va lui poser, puis elle se dit, si ça arrive, j'aurai déjà les réponses. Et donc, on comprend que c'est un jeu. C'est sérieux au début. Son idée est sérieuse, mais elle se prend complètement au jeu parce que elle joue les deux rôles. Puis là, c'est comme une mini pièce de théâtre avec une seule personne qui joue 2 personnages. Et c'était. Mais là aussi, ça peut paraître un petit peu loufoque, mais on se dit, mais pourquoi pas? Pourquoi on ferait pas ça? C'est vrai que c'est une bonne façon de se préparer au cas où on serait arrêté et interrogé par un vrai policier.
Mais d'ailleurs, il faut préciser que vos romans sont repris en Europe, je crois, par la maison d'édition Le Mot et le Reste, si j'ai bien vu. La plupart de vos polars signés chez Ulotrope sont publiés au Mot et le Reste, je pense, hein, c'est ouais. Ça
les deux premiers ont été publiés avec Le Mot et le Reste. Pour celui-ci, peut-être ça va être différent, parce que je pense que Ulotrope veut s'implanter en France. Voilà.
Alors,
Finir avec la circulation, je peux vous donner un scoop.
Allons-y.
Bienvenue à Meurtreville a été justement acheté par une maison en France. Le scénario est écrit, la distribution est décidée. Donc voilà, le film va se faire en France, une adaptation qui va se faire en France.
Bah, toutes nos félicitations, donc, en tout cas.
Le chocolat québécois circule.
Donc, pour finir, va-t-on revoir le sergent détective Steve Mazinck dans un futur proche ?
Alors, je sais jamais à l'avance si je vais en faire un autre, mais j'ai trouvé une idée. Il y a eu un événement récemment à Mandeville avec la mastigouche. J'aime beaucoup la mastigouche. Au printemps, il y a eu une crue, et il y a eu vraiment une crue beaucoup plus grande que d'habitude. Puis ça a provoqué des réactions, des problèmes. Et puis ça m'a donné une idée. C'est juste un début d'idée. Alors on verra. Mais j'aimerais bien, oui.
Voilà, quand faut y aller, comme le dit Jacqueline. Sachez que même si un demi-sourire satisfait se dessine sur ses lèvres, pas sûr qu'elle restera sereine jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page. Non. Il lui faudra, qui sait, montrer les crocs à un moment donné. Voici une nouvelle enquête stimulante du sergent détective Steve Mazinck à découvrir, La Sainte Paix par André Marois, paru en 2023 aux éditions Héliotrope. Merci André d'être passé à Mission Encre Noire.
Voilà qui met fin à Mission Encre Noire ce soir. J'ai eu le grand plaisir de recevoir Jennifer Bélanger en première partie d'émission pour nous présenter son collectif Trouble nos ombres, paru en 2023 aux éditions Triptyque dans la collection Queer. Ainsi qu'en deuxième partie d'émission, André Marois est venu nous présenter La Sainte Paix, paru en 2023 aux éditions Héliotrope. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là!
Garbo acabou de irajar, hein?
É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.